Bonjour à tous, je m'appelle Aurélien, je suis content de vous saluer, en particulier ceux qui nous visitent. S'il vous plaît, jouez un jeu avec moi, gardez un doigt dans votre Bible à ce niveau-là et rendez-vous en Jean chapitre 14, versets 1 à 7. Jean qui se situe dans le Nouveau Testament. Et si vous avez une Bible blanche comme celle-ci, je vous invite juste à tourner les pages jusqu'à la page 700. Et si vous avez un smartphone, désolé, vous ne pouvez pas jouer avec nous. Jean chapitre 14, c'est Jésus qui parle. « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Jusqu'ici notre lecture. Je vais juste prier, m'adresser à Dieu et on va commencer. Notre Dieu, tu es un Dieu qui parle, qui se révèle dans la Bible. Et je prie maintenant que tu utilises ces moments, ces quelques mots, ces temps de méditation, de réflexion sur ce texte de Genèse 47 pour nous parler. Parle-nous Seigneur, s'il te plaît, dispose nos cœurs à entendre ta voix encore cet après-midi. Amen. Bon, eh bien, Peter et Cheryl Plowman sont un couple australien qui a eu la désagréable surprise de constater depuis plus de 20 ans qu'ils ne vivaient pas à la bonne adresse. Plus précisément, ils ont interverti les deux lots qu'ils possèdent. Leur résidence principale et la maison attenante qu'ils ont rénovée dans l'idée de la vendre. Et c'est précisément au moment de vendre ce bien que les choses se sont compliquées. Que s'est-il passé ? Eh bien, l'erreur a été commise par l'administration australienne il y a 130 ans. Les lots de la rue où se déroule cette affaire n'ont pas été numérotés dans le bon ordre. Tout commence bien avec les lots 1 et 2, situés l'un à côté de l'autre, puis viennent les numéros 4 et 3, puis 5. En fait, Peter et Cheryl Plowman ont acheté d'abord la quatrième maison de la rue, qui est en fait le numéro 3, puis quelques années plus tard, la maison voisine qui aurait dû être le numéro 3 alors qu'il est référencé comme le numéro 4. Attention donc lors de votre prochain achat immobilier. Donc face à cet imbroglio administratif, que faire ? Comment vivre ? Eh bien pour l'instant, la situation est bloquée, au grand désespoir des vendeurs qui ne veulent pas bien sûr vendre leur maison, et qui avaient seulement rénové cette propriété voisine afin de la céder au meilleur prix pour financer leur retraite. Mais l'administration australienne ne veut rien entendre. La logique de numérotation ne compte pas. Seules les indications du cadastre font foi. Bon, ça rassure de voir que les problèmes administratifs n'existent ailleurs qu'en France. Où demeures-tu ? C'est la question qu'on se pose cet après-midi. La semaine dernière, avec Antoine, on a vu que Jacob et toute sa famille, une famille très nombreuse, 70 personnes, bonjour la galère pour trouver un Airbnb l'été pour les vacances, Jacob et toute sa famille ont été déplacés de la terre de Canaan, la terre que Dieu leur avait promis, pour être amenés en Égypte. À cause de quoi ? À cause d'une crise environnementale majeure, une lourde famine. Et Jacob et sa famille donc quittent la terre que Dieu leur avait promis pour être déplacés là où ils vont rester en exil pendant 400 ans. On peut imaginer les pensées dans la tête de Jacob. Mais qu'en est-il de ma maison ? Où vais-je demeurer ? Comment suis-je censé vivre maintenant ? Peut-être cette question vous touche particulièrement. Parfois, on se demande, c'est où mon vrai chez moi ? C'est particulièrement vrai quand on est étudiant étranger ou tout simplement étranger. On est déraciné et on se demande, c'est où chez moi ? Alors moi, quand je prends la parole en public, apparemment, j'ai un étrange accent. Et comme j'entends vos rires et vos têtes hochées, je me dis que c'est pas apparemment. Je le justifie en disant que je viens de l'Alsace, mais j'ai pas vraiment habité en Alsace. En fait, à partir de mes 3 ans, j'ai déménagé à Nancy, puis à Bordeaux, puis à Toulouse, puis on est allé vivre à Edmonton, au Canada, avec mon épouse, puis à Genève, puis à Amiens, puis à Grenoble. Quelqu'un peut me dire où j'habite ? Plus sérieusement, on est en exil, d'après la Bible. Cet exil, c'est un peu l'expérience de chaque être humain. Croyant ou non, il y a parfois des moments où on ne se sent pas vraiment chez nous, ici, sur cette terre. Il y a un auteur qui dit que partout où je vais, je me sens étranger. Peut-être que vous ressentez aussi ça. Mais c'est pas que on n'habite pas chez nous. Il y a quelque chose qui résonne dans cette création avec nous, mais pas tous les jours. Et même quand on vient à l'église, dans ce lieu accueillant, il est possible que des fois on sent qu'on n'appartient pas vraiment à l'église, pas vraiment à cette famille. Eh bien, pour la Bible, cet exil, c'est l'expérience de tout être humain. Nous vivons quelque part loin de Dieu, en exil. Alors c'est vrai, si nous ne connaissons pas Dieu, ce n'est pas qu'il n'existe pas, c'est que nous n'avons pas de relation avec lui. Et c'est pourquoi, nous l'avons lu avec ce texte dans Jean, Jésus, il est venu précisément pour ça. Il est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui vient à lui, vient directement à Dieu. Il peut être en relation avec lui. Mais cet exil, on le ressent même quand on est croyant. Parce que Jésus, il nous prépare une place, un lieu où on sera bien dans sa présence pour l'éternité. Et en attendant, on sent à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas vraiment encore chez nous. En attendant ce jour, on se pose tous finalement un peu la question, où est-ce que j'habite vraiment ? Et c'est Jacob qui occupe, avec son fils Joseph, la première place dans ce chapitre 47 qui va nous aider à répondre à cette question, où est-ce que j'habite ? Et comment suis-je censé vivre ? Alors, qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien, on voit qu'on a une bénédiction dans les versets 7 à 26, et puis la manifestation de cette bénédiction. Verset 47, verset 1 à 13, c'est d'abord la bénédiction, la rencontre avec le Pharaon. Avant ça, il y a quelques années, on était à Ikea, avec mon fils Théophile, qui avait alors 3 ans. Et à un moment, alors qu'on était en train de regarder d'autres choses, déambuler entre les meubles, mon fils a la bonne idée de démarrer une partie de cache-cache. Sauf qu'il ne nous avait pas prévenus. Et donc vous imaginez, on commence à tourner les yeux, à le chercher, il est où ? Puis la température monte, on s'inquiète, on crie « Théo, t'es où ?» Et puis à un moment, on entend des petits sanglots dans un placard. Alors je me rapproche, j'ouvre la porte, et c'était le petit Théo, caché, qui pleurait, qui avait compris qu'il était en train d'inquiéter ses parents. Il avait eu la mauvaise idée de jouer dans le gigantesque Ikea. Et bien, c'est un peu pareil pour Jacob et sa famille. Ils sont maintenant cette petite nation perdue au milieu de cette gigantesque nation, l'Égypte, probablement la plus grande nation de l'époque. Jacob est perdu dans le grand Ikea de son temps. Mais Dieu n'a pas perdu Jacob. Verset 5. Regardez s'il vous plaît. Verset 5. Le Pharaon dit à Joseph, « Ton père et tes frères sont venus vers toi. L'Égypte est devant toi. Installe ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. » Qu'ils habitent dans la région de Goshen. Et si tu sais qu'il y a parmi eux des hommes capables, confie-leur leur responsabilité de mes troupeaux. Vous voyez, quand Dieu prend soin de son peuple, quand il le sauve et qu'il fait une promesse, il ne fait pas à moitié. Là, on a une bénédiction pour Jacob et sa famille. Le pharaon leur accorde le droit de rester dans la région une des plus fertiles entre le Nil et le canal de Suez de notre époque. Ce n'est pas les HLM, pas des zones pourraves, mais la meilleure partie du pays. Le pharaon bénit Jacob avec un lieu, mais aussi avec une occupation. Ce qui attend Jacob et sa famille, ce n'est pas le chômage, mais le plein emploi. Alors qu'est-ce qu'on voit en arrivant en Égypte, loin de la terre promise, en exil ? Eh bien, on voit que Dieu n'abandonne pas son peuple. Il est béni. Même en exil, Dieu bénit son peuple. À la lecture, il y a peut-être quelque chose qui vous a frappé dans cette rencontre entre Jacob et le pharaon que Chloé nous a lu. Parce que quand Jacob rencontre Pharaon, ce n'est pas anodin en fait, hein, c'est ces deux nations qui se rencontrent à ce moment-là. Deux nations complètement déséquilibrées, comme un match de Coupe de France 2018 entre le Paris Saint-Germain et les Herbiers. Ça vous parle ? Ça vous rappelle quelque chose ? L'hyperpuissance parisienne contre son petit club de national, c'est totalement inégal. Le pharaon, si le foot ça vous parle pas, le pharaon c'est le FMI, le Fonds Monétaire International, c'est la BCE, la Banque Centrale Européenne. Et Jacob c'est qui ? C'est un homme âgé qu'on déplace en chaise roulante. Vous voyez le déséquilibre ? Pourtant, regardez qui bénit qui. Au verset 7, Joseph fit venir son père Jacob et le présenta au pharaon. Jacob bénit le pharaon. Alors qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Qu'est-ce qui se passe? Bon, excuse-moi, on doit faire un tout petit peu d'histoire, mais c'est quelques rappels succincts. L'homme est en exil parce qu'il est en rupture avec Dieu et il aspire à retourner en relation avec Dieu, à retrouver la terre promise. Mais la première fois, la toute première fois que le Dieu s'adresse à l'être humain pour lui promettre quelque chose concernant ce retour, il s'engage à bénir en fait un homme, l'arrière-grand-père de Jacob qui est Abraham. La première fois que Dieu s'adresse à Abraham, celui-ci lui dit « Abraham, je te bénirai, tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations ». Ce sera une bénédiction internationale, Abraham. Ça, c'était la parenthèse historique. Vous voyez ce qui se passe ici ? Jacob, il est en train de réaliser cette partie de la promesse. Jacob, Israël, la nation, les descendants d'Abraham sont en train de bénir de manière internationale l'Égypte. N'ayons pas peur de notre statut ou de notre influence dans la société. On peut bénir. On peut bénir parce que c'est dans l'ADN du peuple de Dieu, des descendants d'Abraham. Les chrétiens, les églises, sont petites et fragiles. Ce qui est marrant, c'est que quelqu'un un jour a dit « Notre église ici, elle va bien, mais elle est fragile. » Et quelques semaines après, j'entendais un pasteur d'une église plus grande que celle-ci qui disait « Ah, ça reste fragile quand même. » Donc c'est rassurant. Pas besoin d'attendre d'avoir un statut, une influence. On peut bénir déjà maintenant. Chacun peut être une bénédiction. Et cette bénédiction de Jacob, en fait, elle se manifeste dans ce que fait Joseph ensuite avec cette administration pharaonique. Il y en a qui aiment l'administratif parmi nous ? Ouais, merci. Pas trop ? Non ? Ok. Eh bien, Joseph, il va nous faire rêver ici. Parce que lui, il est doué dans l'administratif, dans les versets 13 à 26. Il manifeste la bénédiction de Jacob dans une réforme salutaire pour le peuple égyptien. Il rachète l'Égypte pour le pharaon. Et ça, c'est une réforme qui sauve la vie, c'est le rêve. Avec Joseph, on assiste ici à action contre la faim. Joseph y offre des deals qui permettent aux Égyptiens de vivre en temps de famine. Premier deal, verset 15, « Quand l'argent de l'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, Tous les Égyptiens vinrent trouver Joseph en disant « Donne-nous du pain, pourquoi mourions-nous sous tes yeux ?» Est-ce que vous entendez la détresse du peuple égyptien ? Pourquoi mourions-nous ? Alors Joseph échange d'abord du blé contre les troupeaux. Puis deuxième deal, un an plus tard, verset 18, « Nous ne te cacherons pas, Seigneur, que l'argent est épuisé et que nos troupeaux de bétail sont déjà en ta possession, Seigneur. » Il ne reste plus rien devant toi, Seigneur, si ce n'est nos corps et nos terres. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux, nous et nos terres ? Est-ce que là aussi, vous entendez la détresse de ces gens qui viennent voir Joseph ? Et cette fois, Joseph, en échange de blé, échange les propriétés de ces personnes. Joseph sauve les Égyptiens de cette crise, de cette famine. Alors j'imagine qu'on y a tous un petit peu pensé quand même. L'esclavage, c'est pas top quand même. Pauvres Égyptiens. Eh bien, gardons-nous de plaquer nos attentes du XXIe siècle sur ce texte. Cette situation est vraiment commune à l'époque de Joseph. Et si nous nous sentons mal par rapport à ces deals avec les Égyptiens, regardez qu'eux ne le voient pas de cet œil-là. Regardez le verset 25 et observez la joie débordante. Ils dirent « Tu nous sauves la vie si nous trouvons grâce à tes yeux, Seigneur. » Alors nous serons esclaves du Pharaon. On est all in. On y va. Tu nous sauves la vie. Et ça, c'est un contraste ironique. Un contraste ironique. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'est en train de faire Israël ici ? Israël est en train d'asservir l'Égypte pour la sauver. Mais plus tard, l'Égypte va asservir Israël pour l'oppresser. Israël est en bénédiction pour l'Égypte. Malgré la TVA à 20% et la situation d'esclave du Pharaon, le peuple égyptien déborde de joie. Tu nous sauves la vie, Joseph. Même en exil, loin de sa patrie, Jacob est en bénédiction pour les nations. Et là, on est rassuré pour Jacob et sa famille. On dit que ça va bien aller, probablement, pour eux. Après tout, l'Égypte, cet exil, c'est pas si mal. Verset 27, on voit que le peuple s'installe à Goshen et prospère, se multiplie. On a un logement, on a un toit, on mange à notre faim. C'est pas si mal. Mais la prochaine scène nous révèle là où on est vraiment Jacob dans son cœur par rapport à louer sa demeure, là où il habite vraiment. Ça, c'est les versets suivants, les versets 27 à la fin. Alors, petite précision culturelle, si jamais quelqu'un vous demande de mettre sa main sous sa cuisse, ne le faites pas, parce que vous êtes en train de prêter serment. Vous êtes en train de prendre un engagement très sérieux. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'arrivé à la fin de ses jours sur cette terre, Jacob, sur le point de fermer les yeux une dernière fois, Jacob demande à Joseph de prendre un engagement et de s'engager à l'enterrer dans le tombeau familial qui se situe où ? En terre promise, verset 29. Lorsqu'Israël, qui est en fait l'autre nom de Jacob, le père de la nation Israël, lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets ta main sous ma cuisse et jure que tu feras preuve de bonté et de fidélité envers moi en ne m'enterrant pas en Égypte. » Joseph, promets-moi de m'enterrer avec nos ancêtres, là où c'est vraiment chez moi. Transporte-moi loin d'ici. Vous voyez, Jacob, il a les yeux tournés vers la terre promise, vers la réalisation de la promesse de Dieu. L'Égypte, c'est juste une parenthèse. Un meilleur chapitre va s'ouvrir. Jacob en est convaincu. Ses pieds sont sur la terre égyptienne, mais ses yeux sont tournés vers la terre promise. Quelque temps après son décès, et en fait, il va être vraiment transporté vers la terre promise. En fait, c'est une sorte d'aide visuelle qui va en fait expliquer au peuple ce qui va leur arriver plus tard. Ils vont revenir effectivement en terre promise. Vous n'êtes pas encore à la maison. Vous n'êtes pas encore à la maison. Dieu vous prépare une place. au tout début des années 1900. Un couple missionnaire âgé, après des années de ministère en Afrique, a pris la décision qu'il était temps de retourner chez eux, aux États-Unis. Et alors que le navire arrive à quai à New York, le couple remarque sur le quai la présence de nombreuses personnes. Il y a des groupes de personnes avec des petits drapeaux, des gens qui font des saluts de la main. Il y a même un orchestre qui joue de la musique. Et ce couple est touché dans son cœur. Oh, notre Église a fait tous ses efforts pour nous accueillir. C'est trop bien. C'est trop bien. Sauf que ce n'était pas pour eux. En fait, c'était pour un dignitaire qui revenait d'une partie de chasse. Un dignitaire américain. Personne pour accueillir ce vieux couple. Pas même un membre de leur Église. Alors qu'ils descendent du bateau, discrètement, l'épouse prend la main de son mari, la serre et lui murmure dans l'oreille « On n'est pas encore à la maison. On n'est pas encore à la maison. » Ça, c'est la perspective de Jacob. Et c'est la bonne perspective sur les promesses de Dieu. Nous ne sommes pas encore à la maison. Jacob bénit l'Égypte, mais son cœur reste attaché aux promesses de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on est censé comprendre ? Qu'est-ce qu'on est censé faire, nous qui vivons bien des siècles plus tard à Grenoble au XXIe siècle ? Bon, si je devais résumer ce passage pour nous en une phrase, je dirais « Bénissons l'Égypte, les yeux fixés vers la terre promise ». Et de même qu'une parenthèse égyptienne s'est ouverte pour le peuple, nous vivons aussi dans cette parenthèse entre la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus et son retour final triomphant. Nous ne sommes pas encore à la maison, nous sommes aussi quelque part en exil en Égypte. Et Jésus nous prépare une place. Jésus nous attend. Il nous attend. De même que Jacob bénit l'Égypte, nous sommes appelés à être en bénédiction pour les nations pendant cette parenthèse. Bénissons les yeux fixés sur la maison. Même en exil, étant bénis, nous bénissons les nations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être en bénédiction pour les nations, pour nous ? Dans l'histoire biblique, Joseph, il est un peu particulier. Il vient, il part. En fait, il est très peu cité dans le reste de la Bible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est un panneau indicateur vers notre Sauveur, Jésus-Christ. Et quand Joseph, ici, avec Action contre la faim, inverse les effets de la chute, de la rupture entre Dieu et les hommes, en fait, il annonce suprêmement ce que fait Jésus et ce qu'il va faire définitivement à la fin. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'il y a des choses que Joseph fait que nous n'avons pas à faire, mais que Jésus accomplit. Bénir ne signifie pas entreprendre des réformes sociales de grande ampleur. Alors certains chrétiens seront appelés à s'investir dans la sphère publique, même peut-être en politique, mais ce n'est pas le mandat qui est confié à tous les chrétiens. Oui, ne nous privons pas de faire du bien autour de nous, mais gardons-nous de penser que nous pouvons inverser les effets de la chute. Ça, c'est le mandat de Jésus, le Jésus qui se laisse découvrir par l'annonce de son évangile, sa bonne nouvelle. Et quand quelqu'un répond à Jésus qu'il a compris qu'il est vraiment le chemin, la vérité, la vie pour aller vers Dieu, alors Dieu vient en lui et commence à inverser les effets de la chute dans sa vie. Et ça va continuer jusque dans l'éternité. S'il vous plaît, écoutez bien maintenant le lien avec l'évangile pour nous. De même que Dieu a béni Jacob en les sauvant de la famine, nous aussi, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Dieu, il est maintenant en nous. Il nous fait des promesses. Nous sommes bénis. Ne nous privons pas de bénir les autres. Ouvrons nos maisons. Donnons des conseils d'emprunt de sagesse divine à nos amis. Bénissons avec notre temps, avec notre argent. Moi, ce que j'observe, c'est que parfois, on attend d'être dans une autre phase de la vie pour bénir les autres. y a pas mal de jeunes dans notre église. Parfois, on attend peut-être de se dire, je vais attendre de m'installer avant de commencer à m'impliquer sérieusement dans la vie de l'église, à faire prendre soin des gens autour de moi. Eh bien, n'attendons pas pour servir activement. C'est notre rôle. C'est ce que Jacob et Joseph nous montrent. C'est dans notre ADN. Si nous ne commençons pas à bénir les gens, alors que maintenant nous avons du temps et de l'énergie, eh bien je peux prendre le pari que ce sera plus dur de le faire une fois qu'on sera installé aussi. Parfois, on attend d'être dans une autre phase de la vie pour bénir les autres. Parfois, on attend d'avoir tout simplement une autre situation. Ce sera mieux quand j'aurai enfin réduit mon temps de travail. Ce sera mieux quand j'aurai changé de boulot, quand j'aurai enfin fini les travaux de ma maison, quand mes enfants seront partis de la maison. En fait, il y aura toujours quelque chose. Il y aura toujours des préoccupations. Et Jacob et Joseph, même en exil, alors qu'ils ne savent pas combien de temps ils vont rester, ils s'y mettent. Ils commencent à bénir les nations, là où ils sont, avec les moyens, les ressources, l'énergie, le temps qu'ils ont. Ils bénissent les nations et donc nous pouvons aussi le faire. Dieu nous appelle à un vrai changement d'état d'esprit. Même en exil, même dans cette parenthèse, nous sommes bénis par lui, nous pouvons bénir à notre tour. Mais nos yeux doivent rester fixés sur la terre promise. De même que le danger pour Israël, c'était de rester en Égypte, de s'installer, de poser ses valises et d'être confortable, on peut trop facilement se sentir confortable dans cette vie. De se dire, après tout, l'Égypte, c'est pas si mal. On reste. Le seul moyen de vivre ce changement d'état d'esprit, de se dire que pendant cette parenthèse, on est là pour bénir les gens, de leur annoncer l'Évangile, de leur faire du bien. Le seul moyen de sortir de ce piège du trop confortable, c'est de faire comme Jacob, qui n'a pas cessé d'avoir les yeux fixés vers là où Dieu l'attendait. Pendant 17 ans, Jacob a gardé son cœur en Égypte, son cœur en terre promise, alors que ses pieds étaient en Égypte. Quel est son secret ? Eh bien, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça passe vraiment très discrètement dans notre passage. En parlant de sa vie au Pharaon, il se décrit comme ça au verset 9. Il décrit sa vie comme une vie d'errance. Pourtant, Jacob, il a vécu une partie de sa vie en terre promise. Il en connaît le goût, il en connaît les textures. Il a connu cette vie. Eh bien, Jacob savait que même en ayant été en terre promise, il y avait encore quelque chose à venir. Mais ce qui est encore plus surprenant, je trouve, dans ce verset 9, c'est qu'il décrit la vie de ses ancêtres aussi comme des vies d'errance. Fin du verset 9. « Ma vie, dit Jacob à Pharaon, a été courte et mauvaise, et elle n'a pas atteint la durée de la vie errante de mes ancêtres. » Qui sont ses ancêtres ? Abraham, Isaac, qui ont eux-mêmes vécu en terre promise, ils en connaissaient les recoins, ils ont goûté les grenades, ils connaissaient les textures, les couleurs, ils avaient vu la terre promise, ils y avaient demeuré. Alors d'où ça vient que Abraham, Isaac et Jacob considèrent, même en ayant été en terre promise, accrochez-vous, même en ayant été en terre promise, considèrent leur vie comme une vie d'errance, comme celle de gens de passage alors même qu'ils y étaient. Eh bien, c'est plus tard, dans le Nouveau Testament, à la fin de la Bible, l'auteur d'une épître, d'une lettre, qu'on appelle la lettre aux Hébreux, au verset 11, qui est un chapitre sur la foi par excellence, nous dit que nos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et c'est là où j'en termine. Est-ce que vous avez des souvenirs de moments où vous êtes rentré chez vous et vous vous sentiez bien? Peut-être c'était le moment où votre maman avait préparé un goûter, où vous étiez enfant. Rien de savoir en rentrant, entendre, sentir le pain grillé, le Nutella. On se sent accueilli. Peut-être c'est votre meilleur ami, peut-être c'est votre conjoint qui vous a accueilli un soir et dire « Waouh, chérie, c'est bon d'être à la maison. » Tout est préparé. Table nickel, repas prêt à partager, lit fait, on se sent comme chez soi. Eh bien, c'est ce que fait Jésus en ce moment. Il est en train de nous préparer une place, une demeure, une bien meilleure maison que celle que nous avons ici. Une maison qu'aucun cadastre ne pourra déloger. Une bien meilleure demeure. Ne déposons pas nos valises. Bénissons, les yeux fixés vers la maison. Je vous invite à répondre à ce texte en priant, et je conclurai ce moment.